Accent d'Europe, Laurent Berthaud.
Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission qui parle de la vie des Européens, de jeunes SDF allemands et le théâtre de la vie, le net qui sert aussi à trouver un travail, des bars sans alcool toujours plus nombreux au Royaume-Uni, le portrait d'un ingénieur hydraulique à Malte, c'est le menu du jour, mais tout de suite, une chanson de variété qui fait sens en Finlande.
Kansa, jonka kyyneleistä aikansaisi aika monta valtamertaa.
Douce France chantait, non sans ironie, le groupe Carte de Séjour en 1986. En Finlande, ce sont d'autres immigrés qui ont décidé de reprendre un classique de la variété très populaire, Je suis finlandais. La vidéo diffusée sur les réseaux sociaux intrigue autant qu'elle dérange Pauline Curtet.
Des Africains en tenue traditionnelle, des musulmans courant à la main, des gens du voyage esquissant quelques pas de tango. Le clip, version 2014 d'Olen Suomalainen, cette chanson tant aimée des Finlandais, c'est tout cela, avec en fond ses paroles d'origine, très mélancoliques. Ici est une nation dont les larmes pourraient former des milliers d'océans. Ici, sous l'étoile polaire, se trouve ma maison. Je chante la vie parce que je suis finlandais. Depuis sa publication fin février sur les réseaux sociaux, la vidéo a été vue plus de 150 000 fois et des écoles ont même commencé à l'utiliser pour parler de racisme avec leurs élèves. L'idée est née l'an dernier dans la tête d'un journaliste finlandais qui a proposé à plusieurs jeunes artistes d'origine immigrée de se regrouper pour la concrétiser. L'interprète principale de cette nouvelle version est finno-sénégalaise. Elle s'appelle Fatou Marianang. Dans une interview publiée dans la presse finlandaise, elle raconte que le succès de ce projet l'a beaucoup surprise. Il faut dire qu'il y a quelques années, lorsqu'elle avait voulu chanter Olen Suomalainen dans un bar à karaoké d'Helsinki, une cliente lui avait ordonné de s'arrêter car elle n'avait pas, je cite, l'air finlandaise. Le projet a donc une grande portée symbolique dans un pays où les immigrés, qui ne constituent que 5% de la population, font encore régulièrement face aux clichés et aux discriminations. Avec cette chanson, ils peuvent prouver qu'eux aussi, ils sont finlandais.
Christian F. avait fait de leur histoire un livre. Ces jeunes adolescents toxicomanes qui, dans les années 70, se prostituaient aux abords de la gare berlinoise de Zoo pour se payer leur dose. Aujourd'hui, on trouve toujours de jeunes SDF autour de cette gare. Et c'est une association, la Coube, qui tente de les aider d'une manière originale en les faisant monter sur les planches. C'est un reportage de Déborah Berlioz.
Ce soir, au petit théâtre coupé de Berlin, se joue une comédie criminelle. L'intrigue captive et le public rit de bon cœur. Et pourtant, les acteurs de ce soir n'ont rien de professionnel. Âgés de 15 à 20 ans, ils ont tous vécu dans la rue. La pièce de ce soir est un projet associatif pour les aider à se réinsérer dans la société. Depuis 15 ans, Margareta Riefenthaler s'occupe de l'écriture et de la mise en scène de ces pièces.
Je dois dire que parmi ces jeunes, certains ont de vrais dons artistiques et créatifs. Mais ils n'ont aucun moyen de les exprimer. Ils ne peuvent pas aller dans une école de théâtre. C'est très loin d'eux tout ça, car ils ont des problèmes très concrets, comme un endroit où dormir le soir ou bien se nourrir.
Selon les estimations, environ 2000 jeunes vivraient dans la rue à Berlin. Depuis 1971, l'association Coube leur vient en aide, en leur fournissant du conseil, des repas chauds et un hébergement d'urgence. Mais à cause de leur histoire compliquée, ces jeunes SDF ont souvent développé une sorte de résistance à tout ce qui vient des adultes, et ils sont donc peu réceptifs aux offres traditionnelles du travail social. Le théâtre est donc un moyen détourné de les atteindre, et selon Margareta, ce projet ne leur offre pas qu'une parenthèse, il réapprend aussi à ces jeunes isolés à vivre en groupe.
Être dans un groupe, se soutenir les uns les autres, c'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas du tout. Ils veulent tous être indépendants, ne rien devoir à personne, mais ça change. Quand l'un d'eux ne vient pas, ça pose des problèmes à tous les autres sur scène. Alors ils sont obligés d'être là, les uns pour les autres.
Ce projet théâtral existe maintenant depuis 17 ans et est entièrement financé par des dons. Les acteurs sont recrutés dans la rue ou quand ils viennent à la Coube. Et chaque année, pendant 3 mois, Margareta prépare une nouvelle pièce avec les jeunes. Le temps des répétitions, ils ont des repas chauds et un lit à disposition à la Koub. 40 personnes ont participé au projet cette année, mais seules 11 sont sur scène ce soir. Les autres ont trouvé une formation entre-temps ou ont simplement abandonné. Marc, lui, est resté jusqu'au bout.
Je suis parti du sud de l'Allemagne parce que ma mère est très conservatrice et qu'elle ne supportait pas mon homosexualité. Et je suis venu à Berlin. Avec le théâtre, j'ai appris beaucoup de choses, comme la gestuelle, les mimiques ou les postures de théâtre. Et on apprend aussi à nous extérioriser, à nous comporter autrement avec les autres. Et on gagne plus de confiance en soi.
Marc cherche actuellement un emploi avec l'aide de la Koub, mais une chose est sûre, il va continuer le théâtre. Cela ne peut que réjouir Margaretha, car ce projet lui tient à cœur. Et pour ces jeunes, elle est bien plus qu'une prof de théâtre. Anne, une des actrices principales, se sent très proche d'elle.
J'ai une totale confiance en Margaretha. Quand j'ai des problèmes, je peux aller la voir et lui parler. C'est vraiment une femme géniale.
Mais ce n'est pas forcément évident de travailler avec des jeunes de la rue. Outre leurs problèmes, Margaretha doit parfois gérer les bagarres entre les acteurs, des accès de violence, mais aussi leurs absences.
À chaque fois, c'est encore le cas aujourd'hui, on doit gérer l'absence d'un acteur à la représentation. Heureusement, il y a toujours un jeune qui connaît le texte à force de l'entendre et qui a envie de reprendre le rôle avec parfois quelques bonnes idées. On peut sauver la situation.
Cette année, ils ont joué 3 fois à guichet fermé. Le prix des entrées permettra de donner un petit cachet aux acteurs. Et surtout, la pièce leur permet de se réinsérer, selon Margaretha.
Ce projet leur montre qu'ils sont capables de réussir quelque chose. Et après l'expérience théâtrale, beaucoup reprennent leur scolarité, car pour la plupart, ils sont loin d'être stupides.
Anne, par exemple, va reprendre des études en mars. Elle veut faire une formation de soins aux personnes âgées. Et elle aussi, comme Marc, compte bien continuer le théâtre.
Sur la toile.
La chronique des jeunes européens.
Bonjour Eve Minot.
Bonjour Laurent.
Alors c'est aussi un lieu où les jeunes se donnent en représentation, les réseaux sociaux. Et cette semaine, la Commission européenne lance une campagne, la Get Online Week, pour promouvoir l'outil Internet dans la recherche d'emploi. Convaincu que c'est par là que les chômeurs européens et surtout les jeunes trouveront leur place sur le marché du travail. Alors c'est l'occasion de faire avec vous un point sur l'efficacité réelle ou non de cette recherche d'emploi connectée qui est encore largement sous-utilisée dans certains pays d'Europe, Eve.
Oui, il y a encore du chemin à faire dans ce domaine. Quelques chiffres, alors qu'il y a aujourd'hui en Europe environ 5,5 millions de jeunes sans travail, seulement 17% d'entre eux ont un profil sur les réseaux sociaux dits professionnels comme LinkedIn, Viadeo en France ou Xing en Allemagne. Internet est encore perçu par les jeunes comme un outil avant tout de divertissement. Il n'y a qu'à voir les succès de Facebook, Twitter et autres Tumblr. C'est un fait, les jeunes passent de plus en plus de temps devant leur ordinateur, alors l'Union européenne veut leur montrer que cela peut aussi les aider dans leur recherche d'emploi. Elle s'est inspirée d'une initiative britannique pour lancer cette semaine la campagne Get Online to Get Employed, littéralement aller sur Internet pour trouver un travail. Pour la commissaire européenne chargée du numérique Nesli Kroes, si hier il fallait savoir lire et écrire, aujourd'hui c'est bien la maîtrise d'Internet qui est déterminante dans la recherche d'emploi.
Alors concrètement, Eve, comment on peut profiter des bénéfices de cette campagne Get Online to Get Employed ?
Alors les institutions partenaires de cet événement sont les bibliothèques, certaines ONG, des organisations non gouvernementales, d'autres centres de télécommunications qui recevront gratuitement les personnes intéressées pour faire un bilan de leurs compétences numériques et surtout les améliorer. En Allemagne, à Berlin par exemple, une ONG distribuait gratuitement ce mardi des tablettes numériques assez rares pour être signalées. Malheureusement, elles n'étaient pas destinées aux plus jeunes qui se seraient vite ruées dessus, mais plutôt aux chômeurs de la génération pré-numérique, souvent déconnectés. Exemple, en Espagne, des séminaires de formation au CV en ligne ou aux réseaux sociaux professionnels, toujours les mêmes, auront lieu dans plusieurs grandes villes.
Mais est-ce que ces réseaux professionnels sont vraiment efficaces ?
On est finalement en droit de se le demander. Ils sont en tout cas boudés, je vous le disais, par les jeunes. En fait, ces réseaux, qui diffèrent en fonction des pays, s'avèrent plus utiles pour ceux qui ont déjà un pied dans la vie active et qui peuvent ainsi mettre en avant leur emploi actuel ou leurs expériences passées. Pour le jeune diplômé, ces mini-biographies risquent de ne pas être bien riches. Quelques lignes tout au plus, selon un baromètre IFOP diffusé en ce début d'année. En France, par exemple, les jeunes diplômés Bac plus 5 qui ont trouvé un travail récemment ont envoyé encore environ 27 CV et lettres de motivation. Sur le marché du travail européen, particulièrement excluant pour les jeunes, ces temps-ci, être sur Internet ne suffit pas. Il faut surtout solliciter sans relâche les employeurs.
Alors, la pratique du CV en ligne, elle, se généralise.
Oui, c'est en réalité plus un outil pour se démarquer, sortir du lot finalement. Et certains n'hésitent pas à y aller. Franchement, CV comestible sous forme de boîte de chocolat, CV grand format, dépliable, parodie de site de rencontre ou le plus traditionnel CV vidéo. Cette pratique se développe, je vous l'ai dit, un peu partout en Europe, mais reste anecdotique et souvent réservée aux candidats à des postes plutôt créatifs.
Et puis cette année, on fête aussi les 10 ans de Europass, le CV en ligne à l'échelle européenne.
Oui, Europass, c'était une belle idée, un CV unique pour tous les Européens où l'on pouvait y décliner son parcours, ses diplômes, ses compétences linguistiques évidemment et tenter de décrocher un emploi à l'autre bout du continent. Aujourd'hui, 19 millions de CV Europass ont été créés. Alors vous me direz, on est loin des 500 millions d'Européens, mais il semble que les candidats au départ soient de plus en plus nombreux à y avoir recours. Un signe qui ne trompe pas, ils sont près de 2 millions à consulter chaque jour le site Europass, jusqu'à 3 millions, 5 au Portugal. Et en Italie.
Merci Eve Mino, à la semaine prochaine. Well, goodbye, boo. Forevermore. My boozy days, they're nearly all. We had a good time. Goodbye, booze, ou comment dire stop à l'alcool quand il devient trop encombrant. Eh bien, au Royaume-Uni, on peut désormais prendre du montant dans les bars sans alcool, les dry bars ou alcohol free bars. Un phénomène qui illustre un certain changement dans les mentalités. Marie Billon est allée visiter le premier dry bar de Londres, Redemption, tout un programme.
Les lumières sont tamisées, les flammes des bougies dansent sur les tables et la musique résonne entre les murs. En soirée, Redemption ressemble à un bar on ne peut plus classique. Petite originalité, cependant, les cocktails sont servis dans des pots de confiture, mais l'originalité est surtout dans le verre.
J'ai pris un cocorita, c'est du jus de citron frais, du jus d'agave, de l'eau de coco passée au shaker avec du sel sur le verre. C'était comme une explosion dans ma bouche, c'est meilleur qu'une margarita, vraiment.
Ce que Shelley est en train de boire, ce n'est pas un cocktail, c'est un mocktail sans alcool, la spécialité du Redemption Bar. Catherine Salway est la fondatrice de l'établissement.
Quand vous allez dans un bar normal et que vous ne voulez pas boire d'alcool, vous avez le choix entre de l'eau gazeuse, des boissons sucrées ou des jus de fruits concentrés. Les mocktails, c'est très différent. Notre base, c'est de l'eau gazeuse ou de l'eau de coco et on lui donne du corps. Ça donne l'impression de boire un cocktail classique, mais c'est très sain et revigorant. Notre bar a été élu le meilleur endroit à mocktail par le journal London Evening Standard.
Catherine a ouvert son bar en janvier dernier dans un quartier assez excentré du nord de Londres. Le but était d'ouvrir un vrai bar de soirée sans alcool. Le pari n'est pas à 100% réussi car sans les lumières tamisées, le Redemption Bar ressemble à s'y méprendre à un café classique. Dans un pays où la culture de l'alcool est si prononcée, Catherine a eu du mal à vendre son concept.
Les investisseurs étaient sceptiques. Ce qu'il y a de bien avec l'alcool, c'est que plus vous en buvez, plus vous en voulez. Moi, je crois qu'on peut faire de l'argent en ne vendant que 2 ou 3 mocktails par personne. Par contre, c'est vrai qu'on ferme tôt. On sert aussi à manger et donc les clients mangent et partent. Les gens rentrent plutôt chez eux quand ils ne boivent pas.
Les investisseurs sont peut-être durs à convaincre, mais la tendance est là. Jonathan Beardwell est chercheur au think tank Demos.
Ce genre d'établissement a de l'avenir. Ça n'aura jamais autant de succès qu'un pub classique, mais je pense que beaucoup de gens veulent faire une pause. Et ils savent que s'ils vont dans un bar ou un club classique, ils seront tentés par une boisson alcoolisée. Du coup, la solution des bars sans alcool pour faire des soirées sèches, comme on dit, est idéale pour les clients, tout en étant dans un décor qui ressemble à celui d'une sortie classique.
Si Jonathan Beardwell est si optimiste, c'est que l'attitude des Britanniques face à l'alcool a changé ces 10 dernières années.
On constate que le nombre de jeunes qui boivent et abusent de l'alcool a beaucoup baissé. En 2001, un enfant sur 4, entre 11 et 15 ans, avait bu de l'alcool la semaine précédant le sondage. Le chiffre est désormais de 1 sur 10. Chez les plus âgés, ils sont aussi moins nombreux à s'adonner au binge drinking. Dans l'ensemble, donc, on constate une diminution. Mais ceux qui continuent à boire boivent encore plus. Le nombre d'hospitalisations de jeunes de 18 ans à cause de l'alcool a encore augmenté cette année.
Et puis parmi ces jeunes, il y a ceux qui décident d'arrêter de boire complètement, qui renoncent à l'alcool. Liz Heiss est une habituée du Redemption Bar. À 27 ans, elle a fait un choix.
Ça fait 19 mois que j'ai arrêté de boire. J'ai fait un peu trop la fête et je ne voulais plus que l'alcool fasse partie de ma vie. Et je sais répliquer aux personnes étonnées que je ne boive pas, qui essayent de me faire boire. Je me sens bien mieux sans alcool.
Much happy without it. La tendance grandit tellement qu'elle a même un nom, selon Jonathan Beardwell.
Darling, we need some drink here. Champagne. Yep. We've got one bottle left.
Absolutely fabulous. C'est la génération Abfab, du nom de la série britannique Absolutely Fabulous, dans laquelle les parents sont irresponsables, toujours un verre à la main. Et c'est finalement la fille qui est responsable et sobre, dégoûtée par le comportement de sa mère. La génération Baby Boom avait grandi avec une attitude très laxiste par rapport à l'alcool. Leurs enfants ne veulent pas leur ressembler.
Mais pour Jonathan Beardwell, la véritable raison du déclin de la consommation d'alcool se trouve dans la récession. Ce n'est pas tant que les jeunes ont moins d'argent à dépenser, même si c'est le cas, c'est surtout que dans un monde du travail ultra concurrentiel, ils ne peuvent plus se permettre des lendemains difficiles qui durent des journées. Et pour ceux qui ont du mal à décrocher, le Redemption Bar est aussi là pour les aider à récupérer. Catherine Solway.
Loads of people come here hungover.
Plein de gens viennent ici un lendemain de cuite. La betterave, c'est un super remède. Elle fait des miracles, donc je conseille de boire un beetroutini et de manger un de nos curry. C'est un mélange d'herbes et d'épices, de noix et de graines. Ça remet d'aplomb rapidement.
Tout est dans le nom, plaisante Richard, le barman. Il est d'ailleurs très content de ne plus travailler dans un pub classique parce qu'il n'a plus à gérer les clients sous, parfois violents, toujours bruyants. Les voisins de Redemption sont aussi très contents d'avoir ce petit bar aux clients sobres à côté. Pour l'instant, Redemption est installé dans un quartier résidentiel, mais Catherine espère bientôt pouvoir déménager Redemption dans le centre de la vie nocturne londonienne, à Soho.
Une île avec de l'alcool, mais qui pourrait bien manquer d'eau douce. C'est le danger qui menace Malte en Méditerranée. Un ingénieur en hydraulique a déjà sonné l'alarme plusieurs fois. Portrait de Marco Cremona, signé Alexis Rosenzweig.
Nous sommes déjà le pays qui a le moins de réserves d'eau potable disponibles par habitant dans le monde. Quand il est interrogé sur le sujet, Marco Cremona dresse un état des lieux inquiétant. Très remonté contre les agriculteurs qui puisent illégalement dans la nappe phréatique, cet ingénieur hydrologue de 45 ans sait que si les Maltais continuent de pomper comme des shaddocks, cette nappe sera bientôt infiltrée puis remplacée par de l'eau de mer. Donc Marco Cremona fait ce qu'il peut, d'abord à l'échelle individuelle, et il a fait de sa maison une résidence partiellement auto-alimentée en eau potable grâce à un réservoir pour l'eau de pluie installé sur son toit. Il a également inventé un système qui doit permettre aux hôtels de recycler les eaux usées dans un pays où près de 60% de l'eau utilisée est de l'eau de mer dessalée. La désalinisation n'est pas un mal en soi, selon Marco Cremona, mais il faut du pétrole pour faire tourner les usines et Malte est devenue très, voire trop dépendante de cette source. Alors il tente de faire prendre conscience à la population maltaise qu'il faut changer les modes de consommation et surtout à la classe politique locale qu'il est temps de gérer ce problème de l'eau de manière rationnelle. Avec plusieurs autres chercheurs et économistes, Marco Cremona a fondé il y a 2 ans l'Association Maltaise pour l'eau qui cherche à faire en sorte que les autorités adoptent un plan national dans ce domaine vital. Récipiendaire de plusieurs prix nationaux et internationaux pour ses divers travaux et inventions, Marco le passionné veut rester optimiste pour la suite, mais concède que, sans consensus politique, point de salut. Et si ce n'est pas encore la mer à boire, cela pourrait bientôt être le cas, littéralement.
Et c'est la fin d'Accent d'Europe, émission réalisée et mise en onde par Françoise Grelot. On se retrouve dès 13h10 en universel demain et dès à présent sur les pages RFI, Facebook et Twitter d'Accent d'Europe.